Bonjour à toutes et à tous. Honnêtement, je ne savais pas la direction de la présidence et Patricia ne savait pas sur quoi j'allais prêcher non plus, mais on s'est rendu compte hier soir en priant qu'on avait la même direction, conduite par le Saint-Esprit. Et quand elle m'a dit et maintenant, j'ai dit tu as lu mon message? Parce que c'est le titre du message. Et maintenant, maintenant que nous savons que Christ est ressuscité, maintenant que nous avons célébré en grande pompe la Pâque un peu partout dans le monde, chrétien et non chrétien, maintenant que nous avons l'espérance de voir sa gloire, n'est-ce pas, nous qui sommes chrétiens, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais s'il fallait entreprendre quelque chose pour Christ d'ici là, qu'est-ce que tu entreprendrais? Qu'est-ce que tu ferais? Annoncer la parole, oui. Persévérer dans la prière. J'aimerais ce matin nous encourager à nous mettre dans la peau des disciples quelques instants. Et singulièrement les apôtres. Jésus leur avait dit, et c'est vrai, encore un peu de temps, vous allez me voir, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ils ont vu, ils n'ont pas vu. C'est comme un arc-en-ciel. Mais depuis sa résurrection, ils l'ont vu, certains l'ont vu. Et Jésus n'est pas resté inactif. Jésus, dans Luc chapitre 24, un premier texte, nous aurons à comparer les évangélistes. Les quatre, ce matin. Luc 24, chapitre, 24, verset 44 et suivant, et je lis juste ce que Luc écrit. Luc dit que Jésus ressuscité leur apparut et il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent. Il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent. Comprendre quoi? Les Écritures le concernant, n'est-ce pas? Est-ce qu'aujourd'hui, 2026, nous avons tout compris? Ce n'est pas un jeu de mots, hein? Parce que Jésus a dit tout est accompli. Mais est-ce que nous avons tout compris? Jésus est apparu et il a disparu aussitôt. Verset 51, Jésus les a bénis, il a dit, pium, montez. Et j'aimerais faire deux remarques avant d'aller plus loin. Dans Matthieu chapitre 28, on change d'évangéliste. Mais retenez Luc, hein. Jésus leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent. Et aujourd'hui, si nous voulons comprendre, nous devons prendre le temps d'être plus près de Jésus, n'est-ce pas? Et écouter Jésus, au lieu d'écouter tous les bruits de ce monde. Matthieu chapitre 28, vous devinez le passage, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais, quelques-uns eurent des doutes. N'est-ce pas le cas encore aujourd'hui? Parce que adorer signifie tomber sur sa face. En signe de révérence. Combien ici sont prêts à tomber sur sa face en signe de révérence? S'il fallait vous le demander ce matin, combien de chrétiens se mettent à genoux encore pour prier? C'est pas parce qu'on doute, hein, ou parce qu'on ne doute pas, mais parce qu'on estime qu'on est trop haut pour le faire. On est devant le Maître, devant celui qu'on appelle Maître et Seigneur. Et Thomas dit, si je ne mets pas ma main en niette, je ne crois pas. Et il n'était pas le seul. Aujourd'hui encore, on prêche, on annonce cet évangile, on vient ici, et je suppose que si vous prenez le temps de venir, c'est parce que vous confessez le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, on a quand même des doutes. On n'est pas toujours prêt à tomber sur sa face pour l'adorer en esprit, en vérité. Et c'est là les vrais adorateurs que Jésus attend, n'est-ce pas? D'autres, comme nous, doutèrent, et donc pas encore prêt de tomber sur la face pour adorer celui-là, parce qu'un moment il est là, un moment il n'est pas là, donc on fait quoi là? On n'est pas des gigolos, hein? Ça tourne dans la tête. Pourtant, l'une des premières missions de l'Église, ce n'est pas d'aller évangéliser, c'est de glorifier le Seigneur. Et là, on sera dans un grand débat évangélique ou théologique. Beaucoup estiment qu'il faut aller évangéliser, mais comment tu peux aller parler de Jésus, un Jésus que tu ne connais pas? C'est comme si tu es représentant de Renault ou Peugeot, tu vas vendre quelque chose que tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas. Être plus près de Jésus, reconnaître lui avant d'aller, reglorifier lui, c'est l'une des premières missions de l'Église. Et nous avons, nous, aujourd'hui, le privilège de connaître ce Jésus, parce que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre avec l'espérance de voir Jésus dans sa gloire, n'est-ce pas? Et de passer l'éternité avec lui. Sommes-nous certains que notre raison d'être ici ce matin, c'est Jésus-Christ? Je ne sais pas qui c'est qui l'a dit dans sa prière. On vient par habitude. On vient, mais... Jésus, je ne suis pas conscient de ta présence. Et je pense que si nous étions vraiment conscients de la présence de Christ, on adopterait une autre attitude. La deuxième remarque que je veux faire, c'est que Jésus les rassure. Pourquoi il les rassure? Est-ce qu'ils sont en train de trembler? Puisque certains ont des doutes. Il faut enlever le doute. Jésus les rassure. Il sait que ses disciples, hier comme aujourd'hui en 2026, vivent dans la crainte. Dans la crainte de quoi? De quoi avons-nous peur, bien-aimés, pour ne pas louer et adorer le Seigneur? Question. De quoi avons-nous peur? Est-ce que si j'élève la voix, qu'est-ce que les gens vont dire? Il ne sait pas bien parler français, il ne sait pas prier, il ne sait pas... Donc je me tais. Jésus a un décodeur, il décode tout, toutes les langues. Et j'ai, avec le temps, appris à ne pas avoir peur des hommes, parce que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui me le dit. De quoi tu crains? Parfois, c'est quelque chose, il a dit, et ce rappel n'est pas inutile. Dans Matthieu 28, on va le lire. Au verset 18, Jésus s'approcha et leur parla ainsi en disant, « Tout pouvoir ou toute autorité m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir et toute autorité. Où est Jésus aujourd'hui? Allô? Il est là-haut dans le ciel, il est aussi ici-bas et il est en moi. Amen. Amen. Donc j'ai Christ en moi et j'ai toute autorité et tout pouvoir. Ce n'est pas de la vantardise. Que c'est Jésus lui-même qui dit que je suis plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc j'ai cette autorité, j'ai ce pouvoir. Pas pour faire n'importe quoi. Nous ne sommes pas des charlatans. Mais nous avons reçu autorité pour prendre autorité sur tout esprit méchant. Et Jésus accompagne ce qu'il dit en disant, verset 19, « Allez donc, fort de tout ceci, allez, ne restez pas là, craintifs, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'œuvre du Fils, c'est aussi l'œuvre du Père. Dieu a envoyé le Fils, Christ nous envoie. Faites de toutes les nations, de tous les peuples, là où vous êtes, là où vous serez, partout, prêchez la bonne nouvelle. C'est la mission de l'Église. Ça, c'est l'évangélisation. Mais avant tout, je dois apprendre à adorer mon Seigneur et mon Dieu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est l'œuvre du Christ, c'est l'œuvre du Père. C'est de lui que Jésus a reçu tout pouvoir et c'est de Jésus que j'ai reçu tout pouvoir. Allez auprès des gens de toutes les nations, faites d'eux des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que l'Église fait, c'est ce que nous sommes censés faire. Soyons honnêtes, sommes-nous prêts à aller? Aller où? Sommes-nous prêts à aller parler de Christ, de notre Sauveur, d'aller faire des disciples? Et la question première, c'est, sommes-nous prêts à être des disciples? Un disciple, par définition, il est discipliné, il obéit. N'est-ce pas? Est-ce que nous obéissons au Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à obéir? Marc l'évangéliste, nous passons à un autre évangéliste, il dit autre chose, chapitre 16. Allons au chapitre 16 de Marc. C'est un passage que vous connaissez également. À partir du verset 15 ou 16. On va lire à partir du verset 14. Enfin, Jésus se montra aux onze pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Pourquoi vous doutez encore? Il leur reprocha. D'un côté, il leur ouvre l'intelligence. De l'autre, il les rassure, mais là, il leur reproche quelque chose. Est-ce que Jésus est en droit de nous reprocher? Qui ne répond qu'on sent, hein? Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. N'est-ce pas? Qui étaient les premiers à avoir vu Jésus ressusciter? C'était des femmes. On ne croit pas, c'est blabla. Il y a encore des paroles de femmes. Ils n'ont pas cru. Puis il leur dit, allez, c'est le même mot d'ordre, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, il sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, et vous connaissez les signes, etc. Et là encore, on peut entrer dans des conflits parce que certains théologiens disent que ces passages n'existent pas dans la Bible, etc. Mais néanmoins, on a vu avec l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques, qu'il y a eu des miracles, qu'il y a eu des délivrances. Est-ce que c'est encore possible en 2026? Ou sommes-nous encore dans l'incrédulité? Et Jésus va nous le reprocher. Et ce n'est pas parce qu'il nous dit d'aller qu'il y aura forcément un miracle, mais quel est le plus grand miracle? Ce n'est pas la conversion? Passer de la mort à la vie, passer des ténèbres à la vie, à la lumière? Et c'est Dieu qui fait le reste. Jésus nous invite à être efficaces. Plus que jamais, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Remarquez, l'évangéliste Marc, au verset 20, dit que les disciples, après avoir reçu le mot d'ordre, s'en allèrent prêcher partout. Ils y allèrent tout de suite. Il y a un problème là. Et ils partirent tout de suite, là où pourtant ils avaient des doutes. Et qu'ils craignaient. Ils craignaient quoi? Mais pourtant ils partirent. Je me souviens quand j'étais aux études. Avant, on était parti en groupe pour aller prêcher l'évangile. Et puis, chaque fois, on s'arrêtait pour on voyait quelqu'un arriver, on priait et on se disait, bon, il faut attraper celui-là, attraper celle-là. Et puis, il y a un groupe qui est arrivé et puis a témoigné, on s'est mis à prier. Et puis, quand on a ouvert les yeux, le groupe n'était plus là. Il faut être efficace. Dieu n'a jamais dit qu'il faut fermer les yeux quand on prie. Bref, c'est... Mais sommes-nous prêts à être des disciples et à aller faire des disciples? Ou bien nous préférons rester là dans l'incrédulité, dans la crainte? Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est de savoir ce qui se passe à travers le monde. Vous ouvrez votre chaîne de télévision et qu'est-ce que vous voyez? Iran, Irak, Téhéran, Israël, les États-Unis, on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose qui explose, non? Et on regarde aussi si l'essence baisse, parce qu'on a quand même besoin d'aller passer des vacances. D'autres mouvements religieux perçoivent déjà la bataille d'Armageddon. Ça va exploser. Et donc, il faut se rapprocher de Jéhovah, de Dieu. Il est vrai, la Bible nous avait averti, hein? Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, etc., etc. Mais qu'est-ce qui est notre priorité aujourd'hui? La fin du monde ou le retour du Christ? Allô? Rassurez-moi, hein? Moi, je suis en train d'attendre le retour du Christ. Et il est prévu pour demain. Ah, ça peut être aujourd'hui. Mais s'il pouvait venir depuis hier, je serais content. Mais nous regardons les actualités, on dit, ah, un tel est méchant, un tel est ceci, la bombe va péter un jour. Oui, ça va péter. Est-ce que je serai là pour le voir? D'autres peut-être vont espérer se marier avant. La situation est agitée, elle est critique. Mais c'est bien parce que nous avons les médias. Mais les guerres ont toujours existé. Il n'y avait pas Paris Match, hein? Le poids des photos, choc des... tout ce que vous voulez là. Le poids des mots et choc des photos. Aujourd'hui, nous avons les médias et nous pouvons zapper et puis dire oui, mais aller sur tous les réseaux. Et puis finalement, on finit par ne plus entendre, vouloir entendre les actualités. Parce qu'à longueur de journée, c'est ça. Il y a ceux qui vivent dans la crainte et il y a les autres. Ma question est, sommes-nous en attente d'un bouleversement cosmique ou du retour de l'époux qui vient chercher l'épouse? L'épouse, c'est moi, c'est nous. Et je dois être trouvé prêt. N'est-ce pas? Alors, quelle que soit notre attente, qu'est-ce que je fais d'ici là avec ce mot d'ordre « aller » et proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ? Vous serez mes témoins, dit Jésus. Non sans avoir précisé qu'il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Donc, ne craignez pas, allez, semez, prêchez. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné ou bien il est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru. Ça, c'est terrible, hein? D'où l'importance pour nous aujourd'hui de prendre conscience qu'il y a danger. L'apôtre Paul va plus loin. Je vais revenir à un évangéliste que j'ai laissé de côté. L'apôtre Paul va plus loin et il dit un texte très dérangeant, acte des Romains, pardon. Romains chapitre 10, vous connaissez ce texte? À partir du verset 14, Romains 10, 14, sur la nécessité de prêcher. Romains 10, 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler de lui sans prédicateurs? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Quatre comment. Comment faire? Comment aller? Comment dire? Comment réceptionner? Comment envoyer? Comment faire dans ces temps où les gens sont perdus? Et un sondage récent aux États-Unis a révélé que le nombre d'évangéliques a diminué, passé de 67% à 47% pour laisser la place à des bouddhistes ou à des musulmans. Ça devrait nous déranger. En France, combien nous sommes? Aux Antilles où l'évangélisation bat son plein, combien de chrétiens il y en a? Parce qu'il ne suffit pas de semer. Il faut entourer, enseigner ceux qui sont là. Paul dit, comment y aura-t-il des gens qui vont croire s'il n'y a personne d'envoyé, personne qui prêche, personne qui écoute? Apparemment, tous n'ont pas reçu ce mot d'ordre hein, chez les disciples. Parce que Jésus, tu parles, mais tu n'es pas là. Et ma question est, c'est quand la dernière fois ai-je parlé de Jésus à un collègue de travail, à un ami, à un voisin, même à un parent dans la famille? Et Dieu seul sait que les difficultés dans les familles, dans les communautés, dans les sociétés ne font que s'accroître. Les gens sont perdus, ils sont désorientés et de plus en plus, quand on les regarde, on dit, oula, il n'est pas tout seul là. De plus en plus, on rencontre des gens qui parlent tout seuls, à haute voix. On dit, oula, là, il a... Pourquoi? Et qu'est-ce que je fais? Jésus rappelle, tout pouvoir m'a été donné et il nous envoie. Aujourd'hui, certaines religions n'hésitent pas à mettre en avant leurs prophètes. Et nous qui prétendons avoir la vérité, nous nous taisons. C'est dérangeant. C'est triste. Pourquoi? Parce que nous sommes prisonniers de nous-mêmes, prisonniers de raisonnement, prisonniers de la peur. Certains ont eu des doutes. Jésus les a rassurés. Et Jésus leur a dit, tout pouvoir m'a été donné, toute autorité m'a été donnée, je vous transmets la mission. Donc, il ne nous envoie pas, il nous accompagne. Puisque je suis avec vous, comme l'a rappelé quelqu'un ce matin, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, il nous accompagne. L'évangéliste Marc dit que les disciples allaient tout de suite annoncer la bonne nouvelle. Jean, pour parler de Jean, chapitre 21, je n'ai pas donné le passage, mais c'est juste un verset. Les disciples sont là. Jean présente des évangélistes, des disciples dépités. Je n'ai pas dit députés, hein. Dépités, découragés. Ils sont là à se tourner les pouces, qu'est-ce qu'on fait? Il fait chaud, il fait beau. Qu'est-ce qu'on fait là? N'oubliez pas que ces disciples étaient pour la plupart des marins pêcheurs. Et Pierre est en train de ressasser son reniement, peut-être avec remords, peut-être avec un peu de culpabilité. Il a dit, ah, si seulement, j'avais déjà commencé à tailler les oreilles, si seulement Jésus m'avait laissé faire, on ne serait pas là. Mais il m'en a empêché. Voilà pourquoi j'ai peut-être dit, je ne connais pas cet homme, je ne le reconnais pas. Et vous ne l'avez pas lu, hein, mais je l'ai entendu. Pierre finit par dire au verset 3 du chapitre 21. Vous connaissez ce chip antillais ou africain là? Il dit, chip, allons pêcher. Non, pardon. Il dit, je vais pêcher. Et tous disent, nous allons avec toi. Pierre, c'est un leader. Pierre estime qu'il perd du temps à attendre quoi? Il a dit qu'il va revenir. Il va revenir quand? On est là à faire quoi? Il n'a pas entendu le message, allez prêcher la bonne nouvelle. Et quand vous lisez la suite du passage, puisque Jésus leur avait dit, vous serez pécheurs d'hommes. C'est Jean qui écrit l'évangile et il dit, ils ont péché toute la nuit et ils n'ont nada. On ne se moque pas de Dieu. Des fois, Dieu nous envoie et dit, mais Seigneur, j'ai déjà semé, j'ai déjà mis, j'ai déjà prié, j'ai déjà jeûné pour un tel. Il ne veut rien entendre. Jésus se présente de nouveau à eux et leur ouvre l'intelligence, selon Luc. Contrairement à nous, les disciples n'avaient pas encore reçu l'effusion du Saint-Esprit, même si Jésus leur avait soufflé un peu dessus, avait donné la paix, soit avec vous, etc. Mais nous, aujourd'hui, à notre conversion, nous avons reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous n'avons pas d'excuses. La confrontation avec Pierre va aussi montrer à Pierre à quel point Pierre est pour nous un miroir. Quand nous regardons Pierre, nous nous voyons. Non? En principe, hein? Pierre aimait Jésus, n'est-ce pas? Ah, il aimait. C'était pas un lâche, hein? Le seul homme à marcher sur les eaux, c'était Pierre, hein? Le seul homme à avoir tiré son épée, dégainé, coupé le haut, c'était Pierre. Il aimait Jésus. Mais là, il ne comprend plus. Aujourd'hui, nous sommes là, nous aimons Jésus ou pas? Hein? Ah, il y a très peu, hein? Après, c'est cousu cousu ça? Ah, si nous aimons Jésus, pourquoi nous sommes là? À nous poser des questions, à nous interroger. La croix est dressée, Jésus est vivant, son retour est annoncé et nous sommes là un peu comme ses disciples à attendre. Attendre quoi? Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Autrement, je ne vous l'aurais pas dit. Allez. Nous connaissons tous ce verset, si le Christ vous a franchi, vous serez, sommes-nous réellement libres, bien-aimés? Il n'y a plus personne. Sommes-nous réellement libres? Nous sommes prisonniers du camp, dira-t-on, prisonniers de nous-mêmes. Et même si on a envie, on se dit... J'ai déjà donné. Vous avez déjà entendu cette expression. J'ai déjà donné, je reste pour les autres. Et que personne ne me condamne. Mais Dieu t'invite, Dieu m'invite, Dieu nous invite. C'est pas quand nous voulons, c'est pas comme nous le voulons, mais quand Dieu t'envoie, c'est lève-toi et vas-y. C'est facile à dire, Raymond, hein? Mais nous sommes tous coupables dans ce domaine. L'Église, je me demande, est-elle prête vraiment pour le retour du Seigneur? Autre réflexion plus personnelle, maintenant que Christ est ressuscité pour ma justification, que c'est un acte juridique que seul quelqu'un de parfait pouvait accomplir par rapport au péché qui me séparait de Dieu et le Père, maintenant que la connexion est rétablie avec le Père, c'est de nouveau rendu possible. La connexion est rétablie, réparée grâce au sang versé de Christ. Maintenant que j'ai compris tout cela, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je suis assis là au temple depuis des années à entendre les prédications. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai déjà payé ma place? Pardon, il n'y a pas de place à payer. Est-ce que j'ai déjà réservé ma place auprès du Seigneur? Aujourd'hui, il y a une grande polémique pour acheter des tickets pour un fameux concert bientôt qui aura lieu en novembre prochain. Vous voulez que je vous dise avec qui? Vous savez. Les gens se battent et il y a de l'arnaque un peu partout, mais avec Jésus, il n'y a pas d'arnaque. Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Ma question est, as-tu déjà réservé ta place? Maintenant que tu sais tout ça, maintenant que tu sers en grande pompe la résurrection du Christ, maintenant tu t'attends peut-être à ce que Christ revienne. Et il reviendra. Est-ce que ta place est réservée? Sinon, tu as le temps. Jésus peut encore venir t'ouvrir l'intelligence et te rassurer. Je peux encore te donner l'assurance de ton salut. Parce qu'il arrive qu'on doute. Mais Dieu est là pour nous rassurer. Luc 24, 45 à 47 est très clair. Jésus leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et les disciples, à première vue, n'avaient pas tout compris. Hein. Moi, je pose la question, est-ce que nous avons tout compris? Tout est compris dans l'acte expiatoire de Jésus à la croix. Tout est compris. Mais c'est à moi de tout comprendre, de tout saisir pour aller avec lui avec foi. N'est-ce pas? Le livre des Proverbes commence ainsi. Acquiert la sagesse et l'instruction pour comprendre l'intelligence. Jésus leur ouvrit l'intelligence. Acquiert la sagesse et l'instruction. Et c'est à travers la parole de Dieu pour comprendre, pour saisir l'intelligence. Et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, de la connaissance, de la science ou de l'intelligence. La crainte de l'Éternel. Quand il me dit va, si j'ai la crainte de l'Éternel, j'y vais. Si je lui dis, t'es qui toi? Ce n'est pas pour rien que Jésus a insisté auprès des disciples en leur disant, vous avez appris ceci, mais moi je vous dis cela. Vous croyez qu'il faut faire des choses pour avoir le salut, mais moi je vous dis, c'est fait. J'ai reçu toute autorité, tout pouvoir. Et je vous envoie, mes amis. Je vous envoie. Jésus leur explique certainement que depuis la Genèse à l'Apocalypse, il est question du Christ, du Messie, de loin de l'Éternel. Vous m'appelez Seigneur et Maître et je le suis. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Qu'est-ce qu'il y a à ne pas comprendre là-dedans? Mais Jésus, puis Pierre, même avant Pierre, même avant Jésus, c'était Jean-Baptiste. Et après l'apôtre Paul, il met l'accent surtout sur la nécessité de se repentir. C'est ce que nous avons lu au verset dans Matthieu 28. La repentance sera annoncée pour le pardon de leurs péchés. La repentance, ce n'est pas seulement le changement de religion. Hein. Ce n'est pas changement de vêtements. Se dépouiller de bijoux, de tout ce que vous voulez, mais c'est quelque chose qui se fait au plus profond de l'être humain, au cœur, là. Le QG, quartier général de ma personnalité, là où je défends tout, je dis c'est moi et moi. Je suis fier de ce que je suis moi. T'es rien sans Christ. Sans Christ, tu n'es rien. Ce moi-je qui pense tout savoir, tout gérer comme il veut, qui décide du oui, du non, avec forte conviction, Jésus dit, t'es rien. Il a terrassé Paul, il a terrassé Hérode, il a terrassé qui il voulait. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le livre des Proverbes continue au chapitre 4, verset 23, il dit, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Elle peut te condamner, elle peut aussi te sauver. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Tout commence ici. Je termine avec le témoignage de l'apôtre Paul devant le roi Agrippa. Je ne vous dis pas tout le texte, mais lisez chapitre 26 du livre des Actes. Il faut 3 minutes pour le lire. Montre en main. Hein? C'est ça un témoignage. Il raconte tout. Et il arrive un stade où Festus lui dit, « Ah, Paul, t'es fou, mon vieux. Tu déraisonnes. » Il dit, « Non, je ne suis pas fou. » Le roi Agrippa qui est assis là, il fait semblant, mais il sait très bien. Ah, c'est beau. Paul n'a pas peur. Paul dit tout de ce qu'il était et de ce qu'il est devenu. Et au verset 28, j'aime beaucoup ce verset où Agrippa dit encore un peu, tu vas me persuader de devenir chrétien. Encore un peu, dit notre version, tu vas te persuader que tu as fait un chrétien. Mais j'aime beaucoup cette version français courant qui dit encore un peu, tu vas me persuader de jouer au chrétien. Et c'est pire. On peut jouer au chrétien tous les dimanches, en semaine. Mais Dieu dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Allô? Il n'y a rien de pire que de jouer au chrétien. Que de faire semblant, de se faire passer pour un chrétien alors qu'on n'est rien. Le cœur n'est pas transformé, le cœur n'est pas né de nouveau, le cœur n'est pas brisé. Nous sommes tous comme les disciples des rescapés de la vie. Allô? Nous sommes tous des rescapés sauvés par grâce. Pour aller montrer l'amour du Christ autour de nous. Et Jésus pouvait leur dire, c'est à ceci que tous verront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et mes amis, je ne peux pas aller prêcher l'évangile si je n'ai pas l'amour pour mon frère, pour ma soeur, pour ma mère, pour mon père, que je méprise, et puis dire que Jésus les aime. Quel menteur je suis. Comprenez, l'évangile est clair, hein? C'est à nous, disciples, que revient la mission de répandre la bonne nouvelle. Et celui qui a reçu toute autorité, tout pouvoir, qui vit en toi, si tu l'as invité à entrer dans ta vie, eh bien, il te dit, va. Il nous dit, allez, je suis avec vous tous les jours, vous avez autorité pour renverser toute forteresse. Ma question est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Que Dieu nous aide. Réjouissons-nous, Jésus revient. Et réjouissons-nous de ce qu'il nous a choisi pour être ses témoins ici-bas. Amen.
Recording stopped.